Chapitre 36. Les choses qu'on ne peut pas changer. Quelque chose clochait avec Rand. Dans la fosse de la perdition, s'accrochant à une stalagmite, Ninevé luttait pour ne pas être emportée par le vent vers le néant qui s'ouvrait en face d'elle. Selon Moiraine, il s'agissait de l'essence du ténébreux. Donc n'était-ce pas en fait le vrai pouvoir? Mais si l'essence de cet être était dans le monde, ne devait-on pas en déduire qu'il s'était libéré? Quoi qu'il en soit, sa nature était purement maléfique, et la femme de l'âne éprouvait une terreur supérieure à tout ce qu'elle avait pu connaître dans sa vie. Ce néant attirait tout à lui. Si elle lâchait prise, Ninevé s'y engloutirait. Déjà, il lui avait volé son châle, le faisant disparaître dans la noirceur sans fin. Si elle suivait le même chemin, l'ancienne sage-dame périrait, et son âme avec elle sans doute. « Rand !» se souvint-elle. Pouvait-elle l'aider ? Avec Moridin, il continuait à ferrailler, l'âme contre l'âme. Pour l'instant, il semblait pétrifié. Le front ruisselant de sueur, le dragon ne parlait pas et ne clignait même pas des yeux. Un de ses pieds était entré en contact avec le néant. À cet instant, il s'était immobilisé et Moridin avec lui. Deux statues face à face. Autour d'eux, le vent se déchaînait, mais il ne les affectait pas, à l'inverse de Ninevé. Depuis 15 minutes au moins, il restait ainsi, sans broncher. En tout, il devait y avoir moins d'une heure que le trio était entré dans la fosse pour en découdre avec le ténébreux. Ninevé regarda les pierres qui glissaient vers la masse obscure, puis y disparaissaient. Comme ceux de Moiraine accrochés à sa propre stalagmite, les vêtements de l'ancienne sage-dame se gonflaient au vent. Coup de chance, l'odeur de soufre qui flottait dans la grotte avait été aspirée par la masse obscure. Ninevé ne pouvait pas recourir au Saïdar, parce que Rand la vidait de tout le pouvoir qu'il y avait en elle. Bizarrement, il semblait ne rien en faire. Ninevé pouvait-elle influer sur Moridin, lui aussi paralysé? Et si elle lui jetait une pierre à la tête? Ce serait toujours mieux que d'attendre sans rien faire. Lâchant un peu la stalagmite, Ninevé éprouva sa capacité de résistance face à la force d'attraction du néant. Commençant aussitôt à glisser, elle raffermit sa prise sur la roche.
« Je ne vais quand même pas passer l'ultime bataille accrochée à une pierre !»
Elle devait prendre le risque de bouger. Vers l'avant, ça semblait suicidaire, mais latéralement... Oui, sur sa droite, il y avait une autre stalagmite, pas trop loin. Se lâchant d'abord d'une main, elle se laissa glisser, puis accrocha sa nouvelle planche de salut. De là, elle repéra une autre prise et répéta l'opération, extrêmement lente.
« Rand, espèce de tête de pioche !»
S'il avait laissé une des deux femmes diriger le cercle, elles auraient peut-être pu agir pendant qu'ils se battaient. Ayant atteint une autre stalagmite, elle s'arrêta et vit quelque chose, toujours sur sa droite, qui faillit lui arracher un cri. Une femme était recroquevillée contre la paroi, protégée du vent par plusieurs stalagmites. Et selon toute vraisemblance, elle pleurait. Ninevé regarda Rand, toujours pétrifiée face à Moridin. Puis elle approcha de l'inconnu. Grâce au grand nombre de stalagmites dans ce coin, elle put avancer plus rapidement, car l'attraction était moins forte. Quand elle l'eut rejointe, Ninevé vit que la femme était enchaînée à la paroi.
« Alana, que fiches-tu ici par la lumière ?»
La Aes Sedai cligna des yeux, rougit par les larmes, puis elle regarda l'ancienne sage-dame comme si elle ne la voyait pas. On eût dit que son esprit était vide. En l'étudiant, Ninevé nota qu'Alana portait sur la partie gauche du corps une plaie béante très profonde, ce qui expliquait son incroyable pâleur. Mais pourquoi l'avoir charcutée puis abandonnée ici ?«
Elle a lié Rand, » se souvint Ninevé. « Par la lumière !»
C'était un piège. Moridin avait laissé Alana se vider de son sang, puis il était allé affronter Rand. Au moment de la mort de son Aes Sedai, le dragon deviendrait fou de rage. Une cible facile à détruire pour le rejeter. Pourquoi Rand n'avait-il rien remarqué? Ninevé voulut saisir sa bourse remplie d'herbes, mais elle s'arrêta net. Des simples agiraient-ils au point où en était Alana? Pour la guérir, elle allait devoir recourir au Saïdar. Avec les vêtements de la sœur, elle improvisa un bandage, puis elle voulut puiser du pouvoir. Mais Rand la tenait et ne la lâcherait pas. Cercle de malheur. Affolée, Ninevé tenta de faire lâcher prise au dragon, mais il résista, très fermement, quand elle insista. Apparemment, il canalisait le pouvoir. Pourtant, elle ne voyait pas les tissages. Elle sentait quelque chose, certes, mais dans cette fosse où tout était étrange, et avec le vent qui se déchaînait, elle avait l'impression qu'une tempête faisait rage autour d'elle. À l'intérieur, il devait y avoir le pouvoir, mais comment le localiser? Maudit lien! Elle avait besoin du Saïdar. Mais ce n'était pas la faute de Rand. Dirigeant le cercle,
il n'était pas en mesure de lui transmettre du pouvoir. Désespéré, Nineveh pressa les mains sur la blessure d'Alanna. Allait-elle oser demander à Rand de la libérer du cercle? Si elle le faisait, Moridine se retournerait contre elle, puis attaquerait Alanna. Que faire? Si cette sœur mourait, Rand perdrait l'esprit, ce qui mettrait un terme à sa vie et à l'ultime bataille. Avec une hache, Matt taillait le morceau de bois pour qu'il soit très pointu.
« Vous voyez ?»
dit-il.
« Pas besoin de donner dans l'esthétique. Comme on dit, garde tes jolis meubles pour impressionner la fille du maire. »
Les hommes et les femmes qui regardaient hochèrent la tête avec une sombre détermination. C'étaient des fermiers, des villageois et des artisans, comme les gens qu'ils côtoyaient jadis à Champ-des-Monde. À présent, il en avait des milliers sous ses ordres. Jamais il n'aurait cru qu'ils seraient si nombreux. Mais les braves citoyens du coin étaient venus pour se battre. Matt estimait qu'ils étaient tous cinglés. S'il avait pu filer, il se serait terré dans la première cave venue. En tout cas, il aurait essayé. Les dés roulaient dans sa tête depuis l'instant où Egwene lui avait remis le commandement des armées de la lumière. Être un fichu taverne ne valait décidément pas tripette. Matt reprit sa démonstration. Alors qu'il taillait son pieu destiné à la palissade, un type le regardait intensément. Un vieux paysan, la peau si tannée par le soleil qu'une lame de Trolloc aurait eu du mal à la transpercer. Ce vieillard lui était familier.
« Que la lumière brûle mes souvenirs » pensa-t-il.
Sans aucun doute possible, l'homme ressemblait à quelqu'un qui se nichait dans le tréfonds de sa mémoire. Un tréfonds qui ne lui appartenait pas, ça méritait d'être souligné. Oui, ce devait être ça. Une histoire de charrette et de... blafard ?«
Approche, Reynald !»
dit le vieux à un de ses compagnons, un autre fermier des terres frontalières à son allure.
« Descendons la colonne et voyons si on peut faire accélérer les jeunes. »
Les deux hommes s'éloignèrent alors que Matt, son pieu taillé, s'essuyait le front. Il s'emparait d'une deuxième longueur de bois, à ses bergers il valait mieux tout expliquer deux fois, quand une silhouette en cadinsor qui courait le long de la partie presque achevée de la palissade attira son regard. Urien arborait de courts cheveux roux, sauf sur sa nuque, où oscillait une queue de cheval. En passant, il salua Matt de la main.
« Il s'agite, Matrim Cotton !»
dit-il sans s'arrêter.
« Et ils avancent dans cette direction !»« Merci !»
répondit Matt.
« Je te revaudrai ça !»
Une fraction de seconde, Layel tourna la tête vers le jeune flambeur.
« Remporte cette bataille, ça me suffira. D'autant plus que j'ai parié une outre d'Ouskaï sur ta victoire !»
Matt grogna entre ses dents. Peu de choses étaient plus désagréables qu'un Layel taciturne. À part un Layel rigolard. Parier ? Sur l'issue de cette bataille ? Quel nouveau jeu idiot était-ce ? S'il perdait, nul ne vivrait assez longtemps pour ramasser les mises. Matt se rembrunit. En fait, c'était un excellent pari, puisque perdre ne coûterait rien.
« Il faudrait trouver quelqu'un pour tenir ce pari contre moi !»
dit Matt.
« Urien, ça te tente ?»
Mais Layel était déjà trop loin pour entendre. Matt grogna entre ses dents, puis il remit la hache à une main stéarienne.
« Fais-les marcher au pas, Cindy !»«
Compris, Seigneur Cotton. »
« Je ne suis pas un fichu seigneur !»
dit Matt par réflexe, tandis qu'il réempoignait son hache de bareille. S'éloignant, il balaya du regard la palissade en cours de construction, puis aperçut la patrouille de gardes de la mort qui étudiait les rangées de guerriers à l'exercice. « Des loups parmi des moutons », pensa-t-il, avant de filer sans demander son reste. Les armées du jeune flambeur n'auraient pas beaucoup de temps pour se préparer. Les portails leur avaient permis de prendre un peu d'avance sur les Trollocs, mais elles n'étaient pas encore sorties d'affaires. En fait, il n'y avait aucun moyen de filer d'ici. Mais Matt avait pu sélectionner son champ de bataille, et le site de Merilor ne le décevrait pas.
« C'est comme choisir la stèle de sa propre tombe », pensa-t-il. « Si j'avais pu, je me serais débrouillé pour ne pas avoir à le faire. »
La palissade était érigée en face de la forêt, dans la zone est du site. Matt n'avait pas le temps de la prolonger, et encore moins d'entourer tout le champ de Merilor. De plus, ça n'aurait eu aucun sens. Avec ses fichus aïades de Chara, les ténèbres pourraient trancher les murs comme une épée découpe de la soie. Mais quelques palissades ou perchées des archers seraient très utiles pour cribler les Trollocs de flèches. Matt disposait de deux cours d'eau susceptibles de l'aider. D'abord, la rivière Mora, qui coulait vers le sud-ouest, entre le plateau de Polof et la colline de Dachar. Sa rive sud était au Chiennard, et la berge nord en Arafel. Cette rivière se jetait dans le fleuve Erinin, qui coulait vers le sud, dans le coin méridional du champ de Merilor. Ces cours d'eau seraient de meilleure protection que des murailles, surtout depuis que Matt avait les ressources suffisantes pour bien les défendre. Enfin, si on pouvait parler de ressources. Une moitié de ses soldats étaient des bleus, et les autres s'étaient battus à mort moins d'une semaine plus tôt. Quant aux frontaliers, ils avaient perdu deux hommes sur trois. Oui, deux sur trois.
une armée moins brillante se serait débandée. En comptant jusqu'au dernier type, Matt devrait combattre à 4-1 quand les Trollocs arriveraient. En tout cas, si on se fiait au rapport des points du ciel. Ça ne promettait pas une partie de plaisir. Matt tira sur son chapeau, puis se gratta la peau au bord du nouveau bandeau que Tuan lui avait offert, en cuir rouge. Il aimait bien. Le jeune flambeur passa devant les nouvelles recrues de la garde de la tour qui s'entraînaient avec des bâtons de combat. Pour le moment, les fers manquaient, parce qu'on était toujours en train de les forger. Une bonne chose, vu que ces gars risquaient plus de se blesser que de faire du mal à l'ennemi. Matt confia sa lance à un soldat, qui le salua à la hâte, et emprunta le bâton d'un autre. Parmi ces soldats, ceux qui avaient besoin de se raser plus d'une fois par mois se comptaient sur les doigts d'une main. Si le propriétaire du bâton avait plus de 15 ans, le jeune flambeur voulait bien manger ses bottes, et sans les mettre d'abord à bouillir.
« On ne peut pas sursauter dès que son bâton touche une cible, » expliqua Matt. « Sur un champ de bataille, fermer les yeux, c'est signer son arrêt de mort. Vous n'avez pas écouté la dernière fois ?»
Matt montra aux genoux comment tenir leur arme, puis leur fit répéter les exercices défensifs que son père lui avait enseignés, quand il était encore assez idiot pour trouver amusant de se battre. Consciencieux, il frappa chaque bleu, le forçant à parer ou à bloquer.
« Que la lumière me brûle, ça va entrer dans vos caboches !»
lança-t-il à la cantonade.
« Je m'en ficherais si vous étiez de grands garçons, mais si vous vous faites tuer, vos mères s'attendront à recevoir un mot de moi. En vain, ça c'est sûr. Mais entre deux parties de dés, je risque de me sentir un peu coupable, et je déteste ça. Alors ouvrez grand vos oreilles !»«
Seigneur Cotton !»
fit le gamin à qui il avait emprunté son bâton.
« Je ne suis pas... Bon, que veux-tu ?
Si on apprenait plutôt l'escrime ?
Par le sang et les cendres, comment t'appelles-tu, gamin ?
Sigmund, seigneur.
Eh bien, Sigmund, tu crois que nous avons toute la vie devant nous ? Veux-tu aller voir les seigneurs de la terreur et les monstres pour leur demander de patienter quelques mois, histoire que je puisse vous former ?
Sigmund rougit, et Matt lui rendit son bâton.
Un gosse débile. Bon, les gars, tout ce que je veux, c'est que vous soyez capables de vous défendre seuls. Pour vous transformer en grand guerrier, il me faudrait plus de temps, mais je peux vous enseigner à coopérer, à tenir une formation, et à ne pas vous évanouir quand les Trollocs débouleront. Ça sera bien plus utile que des cours d'escrime.
Les gamins acquiescèrent à contre-cœur.
Recommencez à vous entraîner,
dit Matt. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit que les gardes de la mort approchaient. Récupérant son achane d'areille, il fila, contourna une tente et tomba sur un groupe d'Aes Sedai.
Matt ?
S'enquillait Gwen, qui marchait au milieu de ses sœurs.
Tu vas bien ?
Il me traque,
fit le jeune flambeur en regardant derrière lui.
Qui ça ?
Les gardes de la mort. Je suis censé retourner sous la tente de Tuan.
D'un geste, Egwene fit signe aux autres personnes de se retirer, sauf ses deux gardes du corps, à savoir Gawain et Leilwin.
Matt,
dit la chère d'Amirlin d'un ton accablé.
Je suis heureuse que tu aies enfin décidé de quitter les Sianchania. Mais pour déserter, n'aurais-tu pas pu attendre la fin de la bataille ?
Désolé,
fit Matt, qui avait écouté très distraitement.
Ne peut-on pas aller dans ton camp ? Ces types ne me suivront pas jusque-là.
Enfin, peut-être pas. S'ils étaient tous comme Car et Dé, ces dingues en seraient capables. Pour capturer un homme, leur chef aurait été fichu de plonger derrière lui du haut d'une falaise. Semblant très mécontente de Matt, Egwene se mit en chemin. Comment se faisait-il que les Aes Sedai, prétendument imperturbables, sachent si bien manifester leur désapprobation à un homme ? Si on y réfléchissait, elle aussi aurait été capable de sauter d'une falaise pour faire un prisonnier. Voire pour expliquer aux malheureux qu'il s'y prenait comme un cochon pour se suicider. Hélas, les récentes activités de Matt semblaient impliquer qu'il était le crétin sautant dans le vide.
Nous allons devoir expliquer à Fortuna pourquoi tu as filé,
dit Egwene, alors qu'ils approchaient du camp des sœurs. Matt l'avait placé le plus loin possible de celui des Seanchaniens, sans que ça fasse trop ostentatoire.
Le mariage va poser un problème. Je suggère que...
Minute, Egwene, de quoi parles-tu ?
Tu fuis devant les gardes du Seanchan. N'as-tu rien écouté ?
Bien entendu que oui, comme toujours.
Dans un monde qui s'écroule, découvrir que certaines choses ne changent pas est en somme rassurant. Le Quendiyar et Matrim Cotton, par exemple.
Je fuis ces types parce que Tuan veut que je préside un tribunal. Chaque fois qu'un soldat implore le pardon de l'impératrice pour un crime, c'est moi qui dois me coller à prononcer un verdict.
Toi ?
Fit Egwene.
Bombarder juge ?
Je sais,
fit Matt.
Pas un boulot pour moi, ça. Trop épuisant. Je joue à cache-cache avec les Seanchaniens depuis ce matin, histoire de me garder un peu de temps pour moi-même.
Un travail honnête, pour une fois, ça ne te tuerait pas.
Tu sais que c'est faux. Servir dans l'armée est un travail très honnête, avec un taux de mortalité très, très élevé.
Apparemment, Gawain Trakand devait s'entraîner pour devenir une sœur, car il accabla le jeune flambeur de regards que n'aurait pas désavoué Moiraine. Eh bien, si ça l'amusait. Gawain, un prince, avait été élevé pour jouer les juges. Chaque matin, au petit déjeuner, il envoyait sûrement des types aux galères, histoire de ne pas perdre la main. Matt, lui, n'en donnerait pas qu'on exécute des gens. Point stop. Le petit groupe passa devant les Aiel à l'entraînement. Était-ce pour les rejoindre qu'Urien avait couru? Alors que Matt pressait le pas, histoire que les Séanchaniens ne le rattrapent pas, il s'approcha des Gwen.
« Tu l'as trouvé ?»
demanda-t-il.
« Non, »
répondit la chair d'Amirlin sans le regarder. Inutile de préciser de quoi il parlait.
« Comment peux-tu l'avoir perdu, après tout le mal qu'on s'est donné pour le dénicher ?»«
On ?» D'après ce que j'ai entendu, Rand, Loyal et les frontaliers se sont donné beaucoup plus de mal que toi.
« J'étais là !»
grogna Matt.
« Après tout, je sillonne ce fichu continent. Que la lumière me brûle. D'abord Rand, puis toi. Tout le monde entend me sermonner au sujet de ces jours-là. Gawain, tu veux ton tour ?»«
Avec plaisir !»
fit le mari d'Egwen.
« La ferme !»
s'agaça Matt.
« À part moi, personne ne se souvient correctement de ce qui s'est passé. J'ai cherché ce fichu corps comme un fou. Au fait, c'est moi qui ai soufflé dedans, vous permettant de fuir Falm.
C'est comme ça que tu te rappelles les choses ?»
demanda Egwen.
« Et comment ?»« Bon, j'ai encore quelques trous, mais j'ai reconstitué l'essentiel. »«
Et la dague ?»«
Cette babiole, elle ne méritait pas qu'on perde du temps avec elle. »
Matt se surprit à porter une main à sa hanche, du côté où il arborait jadis l'arme. Surprise, Egwen arqua un sourcil.
« Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. Egwen, nous allons avoir besoin de ce maudit instrument. Besoin !»«
Des gens le cherchent, mais nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé. Il y avait un résidu de portail, mais ancien, et... Matt, on fait de notre mieux. Je te le jure. Ce n'est pas le seul trésor que les ténèbres nous ont volé ces derniers temps. »
Matt interrogea la dirigeante du regard, mais elle ne lâcha plus rien. Aes Sedai de malheur.
« Quelqu'un a vu Perrine ?»
demanda Matt.
« Je ne tiens pas à être le crétin qui lui annoncera la disparition de sa femme. »«
Personne ne l'a aperçu, »
répondit Egwen.
« Je suppose qu'il est avec Rand pour le soutenir. »«
Sans doute. Tu peux m'ouvrir un portail qui donne sur le sommet de la colline ?
Tu ne voulais pas aller dans mon camp ?
C'est sur le chemin. »
Enfin, on pouvait présenter les choses ainsi.
« Et les gardes de la mort n'iront pas fouiner là-haut. »« Egwen, j'ai peur qu'ils aient deviné où nous allons. »
Après une courte pause, la chair d'Amirlin ouvrit un portail qui donnait sur le site de voyage de la colline de Dashar. Ensemble, les deux amis le franchirent. Plus qu'une butte et moins qu'une montagne, la colline de Dashar, au milieu du champ de bataille, culminait à une bonne centaine de pieds. Cette formation rocheuse étant impossible à escalader, il fallait un portail pour gagner son sommet. De là, Matt et ses officiers suivraient le déroulement de la bataille.
« Matrim Cotton, »
dit Egwen.
« Je n'ai jamais connu quelqu'un capable de travailler si dur pour ne pas avoir à travailler. »«
Tu ne fréquentes pas assez les soldats, c'est pour ça. »
Matt fit un signe aux hommes qui le saluèrent dès qu'il sortit du site de voyage. Il sonda le nord où coulait la rivière Mora. Au-delà s'étendait la Raphaël. Puis, au nord-est, il étudia les ruines de ce qui avait dû être un fort ou une tour de guet. À l'est, avant la forêt, il évalua la palissade en cours de construction. Au sud, le fleuve Erinine brillait dans le lointain. C'était là aussi qu'on trouvait le bosquet d'arbres géants qui émerveillait tant Loyal. C'était l'œuvre de Rand, disait-on, pendant la réunion où la paix du dragon avait été signée. Matt tourna la tête vers le sud-ouest, où se trouvait le seul gué intéressant de la rivière Mora. Baptisé gué de Hawal par les fermiers locaux, il donnait, côté Arafel, sur une grande zone marécageuse. Vers l'ouest, sur la même berge de la rivière, se dressait le plateau de Polov, une grande élévation au sommet plat de 40 pieds de haut, très pentu du côté oriental. Le versant d'en face se révélait plus clément. Entre la base du plateau et le marécage, on trouvait un corridor large d'environ 200 pas, et emprunté par tous les voyageurs qui utilisaient le gué pour passer de la Raphaël au Chiennard. Matt pouvait tirer parti de toutes les caractéristiques du terrain. Oui, absolument toutes. Mais est-ce que ce serait suffisant? En outre, une force mystérieuse semblait l'attirer vers le nord. Très bientôt, Rand aurait besoin de lui. Entendant des pas dans son dos, il se retourna, prêt à filer. Mais ce n'étaient pas les gardes de la mort. Seulement ce bon vieux Jour Grady au visage tanné par le soleil.
Je suis allé chercher ces soldats pour toi,
annonça la chamane en tendant un bras. Sur le site de voyage, près de la palissade, Matt vit qu'une petite force émergeait en effet d'un portail. Une centaine de bras rouges conduits par des larnes et précédés par un fichu étendard rouge. Ces hommes étaient accompagnés de quelques 500 personnes en vêtements miteux.
« Qu'est-ce que ça signifie ?»
demanda Grady.
« Tu as envoyé ces gars dans un village au sud pour qu'ils recrutent de la bleusaille ?»«
Oui, et bien plus que ça. »
« Des larnes, je t'ai sauvé la vie, mon gars. »
pensa Matt en essayant de repérer l'homme dans cette foule.
« Et après, tu t'es porté volontaire pour cette boucherie, fichu crétin. »
Des larmes agissaient comme si crever bientôt était son destin.
« Conduis-les en amont de la rivière, »
dit Matt.
« Selon les cartes,
Il n'y a qu'un seul bon endroit pour bloquer la Mora. Un canyon étroit, à quelques lieues au nord-est d'ici.
Très bien, dit Grady. Il y aura des achamans dans la partie.
Ce sera à toi de les diriger, mon vieux. Mais pour l'essentiel, je veux que tu charges ces 600 hommes et femmes de défendre la rivière. Prends le moins de risques possible. Et laisse Delarn et son contingent faire le boulot.
Mais, eh bien, ce n'est pas un groupe très important. Et la plupart de ces gens ne sont pas entraînés.
Je sais ce que je fais,
lâcha Matt. Enfin, j'espère. Grady n'insista pas et s'éloigna. Intrigué, Egwene dévisagea le jeune flambeur.
On ne pourra pas se désengager de ce combat,
dit-il.
Aucune possibilité de retraite, parce qu'il n'y a nulle part où aller. Soit on tient, soit on perd tout.
Il y a toujours un moyen de se replier,
dit Egwene.
Non, plus maintenant.
La chandaraille sur son épaule, l'autre bras tendu, Matt sonda le paysage, et des souvenirs fantomatiques dansèrent devant ses yeux, comme s'ils émergeaient de la poussière illuminée par les rayons de soleil. Rion à la colline de Hoon, Naat et les Sand Machadar, la chute de Pipkin, des centaines et des centaines de champs de bataille et presque autant de victoires, avec des milliers de morts. À ses pieds, Matt regarda ses bribes de souvenirs défiler à une vitesse folle.
« Tu as parlé à l'intendant en chef, Egwene ? Nous sommes à court de vivre. Nous ne gagnerons pas une guerre prolongée où se succéderont avances et reculs. Si nous essayons, l'ennemi nous submergera. Comme c'est arrivé à Eyal dans les marches de Maigand. Même si nous sommes en piteux état, nous ne serons jamais plus forts. Si on recule, il faudra se résigner à crever de faim, en attendant que les Trollocs viennent nous achever.
« Rand,
rappela Egwene.
Il suffit de tenir jusqu'à ce qu'il ait gagné.
C'est vrai, en un certain sens. »
fit Matt en se tournant vers le plateau de Polov. Devant son œil mental, il vit ce qui risquait de se passer, toutes les possibilités. Sur le plateau, il imagina des cavaliers tels des fantômes. S'ils essayaient de tenir cette position, ils perdraient. Mais peut-être que...
Si Rand est battu, rien n'aura plus d'importance. Une fois la roue brisée, nous disparaîtrons tous, si nous avons de la chance. C'est une chose que nous ne pouvons pas changer, mais voici ce qui compte. S'il gagne, nous pouvons encore perdre. Si nous n'arrêtons pas l'armée des ténèbres.
Le front plissé, Matt vit comment se dérouleraient les choses. La défense du gué, les flèches qui pleuvaient de la palissade.
On ne peut pas se contenter de tenir, ni même de remporter une demi-victoire. Nous devons briser nos ennemis, les forcer à fuir, puis les traquer et tuer jusqu'au dernier Trolloc. L'enjeu n'est pas de survivre, mais de remporter une victoire écrasante.
Et comment s'y prendra-t-on?
Demanda la chair d'Amirline.
Matt, tu racontes n'importe quoi. Hier, ne disais-tu pas que nous serions submergés par le nombre ?
Sondant le marécage, Matt crut voir des spectres qui tentaient d'y patauger. Des ombres venues de sa mémoire.
« Je dois changer tout ça, »
marmonna-t-il. Il ne pouvait pas faire ce qu'attendaient ses adversaires, et ce que des espions savaient déjà qu'ils planifiaient.
« Par le sang et les cendres, un dernier lancer de dés. Tout ce que nous avons regroupé en même temps. »
Des hommes en armure noire émergèrent soudain d'un portail au sommet de la colline, haletant comme s'ils avaient dû poursuivre une damane pour qu'elle les transfère jusque-là. Les plastrons de ces types étaient laqués en rouge. Mais ces guerriers n'avaient pas besoin de ça pour être effrayants. Fous de rage, ils semblaient capables de casser des œufs d'un simple regard.
« Toi !»
dit leur chef, un nommé Gélène, en désignant Matt.
« On a besoin de ta présence, Sou !»
Le jeune flambeur leva une main pour interrompre l'officier.
« Tu ne me referas pas ce coup-là !»
s'écria Gélène.
« J'ai des ordres de... »
Matt foudroya du regard l'importun, qui se tut aussitôt. Puis il se tourna de nouveau vers le nord. Un vent frais et bizarrement familier fit onduler sa veste et osciller son chapeau. Rand l'appelait de plus en plus fort, et dans sa tête les déroulait toujours.
« Ils sont là, »
marmonna-t-il.
« De quoi parles-tu ? »
s'enquit Egwene.
« Ils sont là. Les éclaireurs se trompent. »
Matt leva son œil unique et repéra deux rakens qui volaient vers le camp à toute vitesse. À l'évidence, il venait de voir les Trollocs qui avaient dû marcher de nuit.
Les Chariens attaqueront d'abord, pour laisser souffler un peu les monstres, parce qu'ils seront arrivés via des portails, eux.
Envoyez des messagers,
dit Matt au garde de la mort.
Tous les combattants à leur poste. Qu'on avertisse Elaine. Je vais changer de plan de bataille.
Quoi?
S'écria Egwene.
Ils sont là!
Cria Matt au garde de la mort.
« Vous allez bouger, oui ou non? Allez, exécution !»
Dans le ciel, les rakens crièrent pour donner l'alerte. À son crédit, Gélène salua Matt, puis malgré sa lourde armure, il partit au pas de course avec ses hommes.
« Nous y sommes, Egwene !»
annonça Matt.
« Respire à fond une dernière fois, bois un ultime coup de gnôle, ou fume ta dernière pincée de tabac. et regarde bien le sol devant toi, parce qu'il sera bientôt rouge de sang. Dans une heure, nous serons en enfer. Veuille la lumière nous protéger. »
Perrine dérivait dans l'obscurité. Il se sentait si fatigué.
« Tueur est toujours vivant, »
pensa une partie de lui-même.
« Et Grendal corrompt les grands capitaines. La fin est proche. Tu ne peux pas sombrer maintenant. Accroche-toi. »
Certes, mais s'accrocher à quoi? Trop épuisé, il tenta d'ouvrir les yeux et n'y parvint pas. Il aurait dû sortir plus tôt du rêve des loups. Tout son corps était ankylosé et glacé, à part sur son flanc. Bougeant des doigts qui lui semblaient en marbre, il explora la zone chaude. Son marteau était brûlant. Cette chaleur semblant se communiquer à ses doigts, il parvint enfin à respirer à fond. Il devait se réveiller. Comme quand il s'endormait, il dérivait entre sommeil et conscience. Dans cet étrange état, il avait le sentiment de se trouver à l'intersection de deux routes. Un chemin menait au cœur des ténèbres et l'autre. Il ne voyait pas où il conduisait, mais c'était facile à deviner. Au réveil. La chaleur du marteau remonta le long de son bras. Dans sa tête, la brume se dissipa un peu.
Se réveiller.
Voilà ce que Tueur avait fait d'une façon ou d'une autre. Il s'était arraché au sommeil. La vie de Perrine coulait hors de son corps, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Alors que la mort lui ouvrait les bras, il serra les dents, inspira encore à fond et se força à se réveiller. Le silence qui régnait dans le rêve des loups explosa. Perrine atterrit sur de la terre meuble et se retrouva au milieu d'un incroyable vacarme. Des gens beuglaient au sujet d'un front et de la préparation des lignes. Près du jeune homme, une voix retentit, puis une autre.
« Perrine ?»
demanda une troisième. Celle-là, il la connaissait.
« Perrine, mon garçon !»
Maître Luhan ? Ses paupières étant trop lourdes, Perrine ne parvint pas à ouvrir les yeux. Des mains le saisirent.
« Accroche-toi, mon gars. Je te tiens. Oui, je te tiens !»